RCF.
L'Hebdo-Région, le magazine d'information proposé par les rédactions de vos radios chrétiennes en Pays de la Loire.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. L'enfant prodigue de retour au pays. Une semaine après sa victoire aux primaires de la droite et du centre, François Fillon est revenu sur sa terre natale, la Sarthe. Aubery Métro de RCF Le Mans l'a rencontré. La région a trouvé une nouvelle utilisation aux troglodytes saumurois. Alors que les souterrains sont abandonnés depuis plusieurs années, la collectivité projette d'y développer un data center, un centre regroupant toutes les données numériques des entreprises du territoire. On vous en dit plus dans un instant. Dans la rencontre de la semaine, nous partirons en Vendée. Fanny Brevet a interviewé un jeune homme de 17 ans qui a subi des harcèlements scolaires pendant son enfance. Aujourd'hui, il tente de publier un livre pour dénoncer ce fléau. Dans la pause spirituelle, nous nous arrêterons sur le débat de la semaine. Il concerne le délit d'entrave à l'IVG. Une proposition de loi à l'étude conseille d'élargir ce délit en accentuant notamment la répression contre les sites internet diffusant des informations biaisées sur l'avortement. Et puis c'est un petit village de 115 habitants coincé entre la Mayenne, le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique. La commune de la Boissière organise chaque année son marché de Noël. Il a lieu ce dimanche et sa notoriété n'est plus à faire. 10 000 personnes sont attendues dans la journée. Voilà pour ce qui vous attend dans cette hebdo-région, présentée par la rédaction de RCF Anjou, en collaboration avec les autres radios chrétiennes des Pays de la Loire.
L'hebdo-région, l'actu de la semaine.
Allez, sans plus attendre, on prend la direction de la Sarthe, Aubery Métro, bonjour.
Bonjour Bastien.
Alors, votre département a attiré cette semaine tous les regards politiques.
Eh oui, François Fillon, ça ne vous aura pas échappé, a remporté la primaire de la droite et du centre. Alors dimanche soir, tous les médias nationaux étaient à Sablé. Il y avait aussi des télés allemandes, des journalistes belges. Là-bas, tout le monde connaît François Fillon. Il a été maire pendant 18 ans et dans ce canton, il a même obtenu 95% des voix. C'est donc tout naturellement chez lui qu'il a effectué jeudi son premier déplacement officiel en tant que candidat à l'élection présidentielle. Une visite qui a eu lieu à Chantenay-Villedieu, un village d'un peu moins de 900 habitants, auquel François Fillon est particulièrement attaché.
Je voulais que mon premier déplacement de la campagne présidentielle soit ici à Chantenay-Villedieu, pour des raisons très symboliques. D'abord parce que c'est à Chantenay-Villedieu que j'ai commencé ma campagne en 1981 pour les élections législatives. Ensuite parce que Chantenay-Villedieu, c'est une commune rurale qui, comme beaucoup de communes rurales, connaît des difficultés, se bat avec des agriculteurs qui souffrent, avec des commerçants et des artisans qui, on l'a vu dans la visite que je viens de faire, travaillent 70 heures par semaine et qui parfois ont bien du mal à se payer un SMIC à la fin du mois. C'est donc un symbole d'une France rurale qui souffre en silence et qui a besoin d'être soutenue, qui a besoin d'être aidée, qui a besoin d'être libérée.
Voilà, et lors de ce déplacement au Beuré, on l'a vu hein, à la télévision notamment, une meute de journalistes était aux trousses de François Fillon.
Eh oui, je ne vous cache pas qu'il a fallu jouer des coudes pour obtenir une interview et placer le micro d'RCF sous la bouche de François Fillon. Ils étaient tous venus chercher une petite phrase sur la possible alliance avec François Bayrou ou une possible éventuelle candidature de Manuel Valls. Mais l'ancien président de la Sarthe a tout de même eu un mot pour ses électeurs. Dimanche, ils étaient 87% à voter pour lui dans notre département. C'est son plus gros score dans toute la France.
Je n'espérais pas un score presque digne de Cuba. Le regard des Sartois, c'est le même. Moi, j'ai toujours eu ici un énorme soutien. Je me suis battu pour aider les territoires à s'organiser, pour aider les agriculteurs à se moderniser. On est ici dans une ferme où il y a deux productions qui sont des symboles de la réussite de ce territoire, le poulet de Loué, qui montre que quand les agriculteurs réussissent à se regrouper et à produire de la qualité, ils peuvent dégager des revenus supplémentaires et ils ont de la stabilité. Il y a un deuxième label qui est celui du port Sénoman. Tout ça, ce sont des projets auxquels j'ai largement participé. Et j'ai toujours trouvé dans ces territoires non seulement un soutien, parfois critique, et beaucoup de bon sens. Le sentiment que j'avais réussi à parler en particulier à toutes ces personnes dans les territoires ruraux qui désespèrent et dont beaucoup étaient tentés par des votes extrémistes. Et c'est pour moi évidemment très important que de réussir à convaincre de venir voter pour un candidat qui ne fait aucune démagogie.
Et au programme de François Fillon, lors de ce déplacement, visite d'une ferme des Poulets de Loué, rencontre avec les élus mais aussi avec les commerçants du village.
Et oui, il a eu un mot pour chacun, prenant le temps d'échanger, même de plaisanter avec le boucher-charcutier. Mais il y a eu aussi des discussions plus sérieuses, comme ça a été le cas avec Laurent Bourgeon, c'est le boulanger de Chantenay-Villedieu.
On voulait bien embaucher, on voulait baisser les, surtout les charges sociales. Puis le RSI qui nous coûte très très cher, 19% de mon chiffre d'affaires par an, donc je trouve ça inadmissible. Parce qu'après on rajoute les impôts là-dessus, donc là-dessus on voudrait que ça baisse, qu'il fasse quelque chose et puis qu'il nous redresse la France. Il connaît quand même dans le secteur rural, donc je pense qu'il fera quelque chose pour le rural, donc on verra bien. J'ai pas été voté, donc j'allais pas mettre 2 euros, j'estimais qu'on n'allait pas mettre 2 euros, donc voilà. Après quand viendra le mois de mai, je ferai mon devoir, mais je pense que ça sera peut-être le futur président. Donc, je pense qu'ils sont fiers. Oui. De toute façon, tout ce qu'on touche à la Sarthe, les 24 heures, la Rillette, je pense pas, il y a un autre département aussi, qu'on peut être aussi fiers de ça.
François Fillon, au cours de sa visite, a aussi fait des annonces comme reprendre les privatisations. Pour lui, il faudrait récupérer l'argent de l'État dans les entreprises dans lesquelles il n'est pas décisionnaire pour le réinvestir dans des infrastructures telles que les voies de communication ou l'accès au haut débit. Preuve que la campagne présidentielle et ses annonces quotidiennes ont vraiment commencé.
Oui, une campagne que l'on ne manquera pas de vous faire suivre. Merci, Aubery. Dans le reste de l'actualité, la secrétaire d'État chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage était de passage lundi dans l'agglomération nantaise. Clotilde Walter a rencontré les enseignants et les jeunes du centre de formation des apprentis de Saint-Herblain. À l'occasion pour elle de vanter l'apprentissage, une voie royale pour trouver un emploi. Un message qui a du mal à porter ses fruits. En 2012, on comptait en France 426 000 apprentis. Le président Hollande fixait alors un objectif de 500 000 jeunes formés par an. Objectif qui ne sera finalement pas atteint à la fin du quinquennat selon Clotilde Walter. C'est assez rare pour être signalé. Deux juges du conseil des prud'hommes de Nantes déchus de leur mandat. Ces deux chefs d'entreprise avaient été condamnés par la justice dans des affaires d'abus de biens sociaux ou d'usage de faux et ils continuaient malgré tout à exercer aux prud'hommes. Désormais, ils ne pourront plus. Et puis les éleveurs du Marais et du Bocage affiliés à la coordination rurale ont déposé 80 plaintes pour préjudice financier et moral au tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon. Ils attendent toujours les primes, mesures agro-environnementales qui n'ont pas été versées depuis 2 ans maintenant.
L'Hebdo-Région, initiative.
Bonjour Maria Goyer.
Bonjour Bastien Lallier.
Aujourd'hui, vous allez nous conter l'histoire d'un projet un peu fou. La région des Pays de la Loire, avec une poignée d'entreprises, a décidé de transformer les troglodytes du Saumurois en véritable salle de stockage de données informatiques.
Il faut savoir, Bastien, que le Saumurois dispose d'un nombre incalculable de kilomètres de souterrains troglodytiques. 16 000 entrées de caves ont déjà été recensées. Sauf que depuis le départ des champignonnières, ce patrimoine foncier est à l'abandon. Pour le sauvegarder et en faire un atout de développement du territoire, une idée a germé. Profiter de la fraîcheur des souterrains pour conditionner toutes les données numériques de nos entreprises. Une première mondiale, Pascal Dupuis est le chef de ce projet baptisé Deep Data Center.
Alors c'est une première mondiale, pas sur le volet souterrain. Il existe des data centers souterrains dans le monde qui réutilisent en général d'anciens bunkers ou d'anciennes installations de la Seconde Guerre mondiale. Vous en avez en Suède, vous en avez aux États-Unis, vous en avez en Suisse, un peu partout dans le monde. Ce qui est une première mondiale, c'est d'utiliser les capacités thermiques du tuffeau qui absorbe énormément de chaleur parce qu'il est gorgé d'eau, pour refroidir ses serveurs et donc se passer totalement de système de climatisation et avoir des résultats qui sont très importants en matière de consommation énergétique et de faible consommation énergétique des data centers. Ça évite d'avoir d'énormes climatiseurs et donc de perdre en investissement parce que tous ces coûts de climatisation sont très lourds, mais également en fonctionnement, puis vous faites baisser votre facture énergétique. Un data center, c'est environ une ville de 50 000 habitants en termes de consommation électrique annuelle. Donc c'est assez énorme. Et sur cette consommation électrique annuelle, 40% est lié au refroidissement des serveurs qui doivent être maintenus à une température stable. Et donc, ces 40%, nous, on s'en affranchit en utilisant des circulations quasiment naturelles et des extractions d'air chaud quasiment naturelles dans les carrières troglodytes.
La dimension écologique du projet va même encore plus loin.
Il y a énormément de questions autour de la dimension écologique. Il y a la baisse de la facture énergétique, on en a parlé.
Oui.
Il y a également la baisse de la consommation d'eau, parce que les systèmes de refroidissement traditionnels data center consomment énormément d'eau. Et il y a aussi, dans la localisation foncière souterraine, l'absence de consommation de terres agricoles et de terres de surface. Donc on est aussi sur ces enjeux-là écologiques, environnementaux, durables, pour développer du foncier souterrain.
Pour visualiser l'endroit, imaginez une grotte à l'intérieur du tuffeau transformée en gigantesque salle informatique remplie de disques durs. Tout cela conditionné à une température ne dépassant pas les 11-12 degrés. Et à en croire Pascal Dupuis, ce dispositif est plutôt efficace.
En fait, on mesure l'efficacité énergétique d'un data center par un indice qui s'appelle le PUE. Je ne vais pas rentrer dans des détails techniques très importants, mais en gros, le PUE, les plus importants PUE annoncés par Google et Facebook sont aux alentours de 1,07. L'idéal étant de 1, et nous, on est aux environs de 1,10, ce qui est largement supérieur à la moyenne des data centers en France aujourd'hui. Donc on est sur des performances énergétiques qui sont très très importantes.
Alors le projet en est encore au stade d'expérimentation, mais dès le premier trimestre prochain, ces initiateurs envisagent une commercialisation. Toutes les entreprises qui voudront louer un espace de stockage de données pourront le faire. Et vu le nombre de données numériques créées par an, le marché est prometteur.
De toute façon, vous avez, avec l'accroissement des objets connectés, avec l'accroissement des données mobiles, avec tout cet accroissement numérique, vous avez une production de données qui est croissante. Et les projections montrent que d'ici 2025-2030, on ne pourra plus suivre en termes de capacité de stockage le volume de données réellement créées. Je crois que c'est en 2012 qu'on a créé autant de données en une seule année que toutes les données qu'on avait créées durant toute l'histoire de l'humanité. Donc vous voyez qu'on a des questions de production exponentielle de données qu'on ne va pas pouvoir suivre en termes de stockage, donc ça va poser des enjeux de tri, de choix, mais sur lesquels il y a des enjeux écologiques pour comment le stocker bien et comment faire que ce stockage soit le plus sécurisé et avec le moins d'impact sur l'environnement.
Dernière information, le lieu précis de stockage des données est tenu secret. Vous l'aurez compris, pour des raisons de sécurité, Bastien.
Oui, merci Marie. Je rappelle que 500 000 euros ont été investis dans ce projet. La région en est l'initiateur. Le consortium d'entreprises qui l'a accompagné a également mis la main à la poche, tout comme le département de Maine-et-Loire. Dans le Maine-et-Loire, justement, Cholet vient de se doter de 12 caméras de vidéosurveillance, une première dans les rues de la ville. Ces appareils seront installés entre la place Travaux et la sous-préfecture. Les images enregistrées pourront aussi être visionnés en direct au commissariat. Objectif, dissuader les délits. Coût total de ces installations, 80 000 euros environ, financés par la collectivité avec l'aide de l'État.
L'Hebdo-Région, rencontre avec...
Et on reste en Vendée pour la rencontre de la semaine. Fanny Brevet, bonjour.
Bonjour Bastien, bonjour à tous.
Alors vous nous proposez aujourd'hui d'écouter le témoignage d'un jeune Vendéen qui a vécu un enfer.
Arthur Lambert, fontenaisien âgé aujourd'hui de 17 ans, a été victime de harcèlement scolaire pendant un trimestre alors qu'il était au collège. Entouré par sa famille et ses amis, il s'est relevé et a écrit un roman qu'il souhaite publier. Arthur nous dit comment ce harcèlement a commencé.
Alors c'était en troisième, je dirais le dernier trimestre de troisième. En fait, ça a commencé très simplement, entre guillemets. On était à table et en fait, on m'a dit tout simplement « Arthur, tu ne sers à rien, tu es un con, merci de sortir du groupe, merci de t'en aller du groupe. »
Et ça, du jour au lendemain ?
Du jour au lendemain, sans aucune explication. J'étais très surpris d'ailleurs parce que vraiment, je m'y attendais pas du tout. Et voilà, c'était quelque chose de totalement inattendu pour moi. On était en juin. Je pensais pas que voilà, au dernier moment comme ça, on me demanderait de quitter et le groupe et en fait que ça allait avoir beaucoup de conséquences en fait.
Et donc ça, cette phrase que vous nous avez dite, c'était le début. Quelle forme ensuite ce harcèlement a-t-il pris ?
Alors c'était tout d'abord des moqueries. Donc je me suis dit bon, tout va bien au final. Et ça s'est endurci, ça a été ensuite des insultes, puis des coups et même de l'humiliation finalement.
Et ce qui est d'autant plus difficile à comprendre, c'est que ces harceleurs, vous les connaissiez ?
Ah oui, je les connaissais parfaitement. C'était mon groupe d'amis, en fait. C'était le groupe d'amis avec qui j'étais au collège pendant toute ma scolarité de troisième. Je dirais même depuis, pour certains, que je les connaissais depuis la sixième. Donc c'était des gens que je fréquentais depuis très longtemps. Et c'est ça qui est très compliqué à comprendre pour moi.
Et Arthur ne s'explique toujours pas le changement de comportement de ses anciens camarades, ajoutant qu'eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi ils ont agi ainsi et qu'ils n'avaient pas conscience du mal qu'ils faisaient.
Et c'est pour refermer cette plaie, Fanny, alors qu'il était entré au lycée, qu'Arthur Lambert a souhaité écrire un livre.
Et ce livre, ce n'est pas un témoignage, mais un roman. L'histoire de Tom, un jeune qui vient de perdre tragiquement ses parents lors d'un accident de voiture. Il se retrouve avec son frère Yann à déménager loin de leur domicile. Ce changement de vie implique la rentrée dans un nouveau collège pour Tom. Une rentrée qui va bouleverser sa vie car il va devoir affronter une terrible rumeur.
Alors, c'est écrit beaucoup plus tard. C'est-à-dire que moi, j'ai été harcelé donc en juin 2014 et j'ai commencé à écrire le livre en août 2015. Un an après, j'avais encore de la souffrance en moi et je voulais commencer à pardonner. Pour moi, le pardon est important parce que j'ai vu qu'en fait, au lycée, tout se passait bien. J'ai retrouvé un groupe d'amis et tout le monde m'a accueilli à bras ouverts et j'ai réussi à me reconstruire. Ils avaient besoin de pardonner, ils avaient besoin aussi d'écrire ma souffrance pour me délivrer. Et pour moi, écrire était une délivrance. Du coup, en écrivant, ça m'a vraiment permis voilà, de soulager mes douleurs internes. Et c'était donc le but donc, de ce livre.
Donc le titre hein, de ce livre donc, qui est déjà écrit, c'est au nom d'un harcelé. Et aujourd'hui, vous faites appel au financement participatif bah, pour pouvoir tout simplement publier cette histoire.
Oui, en effet, parce que j'ai des maisons d'édition qui ont trouvé mon livre sympathique à publier. Mais en fait, ces maisons d'édition me proposent un mode où en fait je participe au financement. Donc il me faut une certaine somme et en tant qu'étudiant, bien sûr, je ne peux pas trouver cette somme dans l'immédiat. Donc j'ai fait appel au financement participatif à la générosité pardon, des gens pour que je puisse réaliser mon rêve. Donc c'est pour ça que j'ai créé un Ulule pour en fait recevoir des dons et que les gens m'aident en fait oui à réaliser mon rêve.
Et parce que le harcèlement scolaire peut toucher tout le monde, Arthur Lambert invite le plus grand nombre à participer au financement de ce livre. La campagne de financement participatif sur Ulule se termine le 17 décembre.
Voilà, un témoignage recueilli cette semaine par Fanny Brevet. Merci beaucoup Fanny. On poursuit notre magazine avec un débat maintenant qui a secoué l'actualité cette semaine.
L'Hebdo-Région, pause spirituelle.
Et ce débat dont je vous parlais concerne l'interruption volontaire de grossesse. Les députés ont examiné jeudi une proposition de loi socialiste sur le délit d'entrave numérique à l'IVG. Objectif, lutter contre les sites internet qui propageraient des informations biaisées sur l'avortement. Anthony Torzec, bonjour.
Bonjour Bastien et bonjour à toutes et à tous.
Alors l'Église catholique est montée au créneau cette semaine pour dénoncer cette atteinte, selon elle, à la liberté d'expression.
Pour cette proposition de loi, Bastien, le gouvernement a engagé une procédure accélérée. Il y a eu donc cette première lecture jeudi dernier devant l'Assemblée nationale. Si cette proposition de loi est adoptée, les sites internet qui donneraient des informations fausses sur l'interruption volontaire de grossesse seraient punis. Il serait interdit également d'exercer des pressions psychologiques sur les femmes s'informant sur l'IVG. Par une lettre envoyée au président de la République, le président de la Conférence des évêques de France, Mgr Pontier, s'est dit très préoccupé par ce texte qui, selon lui, mettrait à mal la liberté d'expression. Une position partagée par Jacques Héron, ce diacre du diocèse de Nantes, est aussi conseiller conjugal à l'association Claire Amour et Famille.
Tout est fait pour que, effectivement, il ne puisse pas y avoir d'autres alternatives. Il serait punissable aujourd'hui de dire à la femme qui s'interroge qu'il y a aussi d'autres solutions, qu'il y a des aides possibles, que l'avortement n'est pas forcément le seul chemin. Pour l'Église, il s'agit d'accompagner, justement, d'éclairer, autant que faire se peut, pour que les personnes puissent d'abord ne pas se sentir seules, parce que très fréquemment dans ces situations, beaucoup d'ailleurs de femmes disent avoir éprouvé une solitude dramatique, d'autant plus qu'un certain nombre d'entre elles subissent dans ce choix à faire la pression de l'entourage, la pression de la famille ou la pression du conjoint, voire quelquefois la pression de l'employeur. C'est une question de liberté, et l'Église, ce que l'Église souhaite, c'est accompagner ces personnes pour qu'elles puissent faire un choix libre et pas du tout les rejeter.
Vous parlez d'accompagnement de ces personnes, mais est-ce que cet accompagnement passe par une certaine pression? Est-ce que l'Église met la pression justement sur ces femmes pour qu'elles n'avortent pas?
Il faut pouvoir dire que dans l'expression de la foi, ce qui est premier, comme instance de décision, ce qui est premier, ça n'est pas l'Église, ça n'est pas le médecin, ça n'est pas le conjoint, c'est la conscience éclairée, la conscience personnelle. Donc il s'agit essentiellement de ça, pour que justement cette personne soit réellement dans une liberté, dans une autonomie de décision, et qu'elle se sente aussi accompagnée et surtout pas jugée. Qui suis-je pour juger ? On sait très bien que c'est un choix qui est difficile, c'est un choix qui est posé dans des conditions souvent dramatiques, et tout faire pour que cette personne garde sa dignité, garde sa liberté, bien sûr, c'est absolument essentiel.
Témoignage de Jacques Héron, diacre du diocèse de Nantes et conseiller conjugal à l'association Claire Amour et Famille. Nous avions sollicité également une interview du planning familial qui n'a pas répondu à notre invitation. Le débat parlementaire n'est pas terminé car le texte doit maintenant être débattu au Sénat puis revenir devant l'Assemblée nationale. Des amendements pourraient bien modifier le texte initial. C'est donc un processus parlementaire à suivre.
Un sujet réalisé par Anthony Torzek de Fidélité Nantes. Merci Anthony, on vous retrouve dès la semaine prochaine. Quant à nous, on file en Mayenne pour la dernière partie de cette hebdo-région.
L'hebdo-région, si on sortait.
Bonjour Samuel Pécaud.
Bonjour Bastien, bonjour à toutes et à tous.
Ces trois prochains week-ends, des centaines de marchés de Noël seront organisés dans les Pays de la Loire. Mais aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de celui organisé par l'une des plus petites communes de la région, La Boissière, un village de seulement 115 habitants dans le sud Mayenne, à la frontière avec le Maine-et-Loire. Tenez-vous bien, car ce marché de Noël attire près de 10 000 personnes sur la journée. Vous avez bien entendu, dimanche, la population de ce village sera multipliée par 100. Alors pourquoi un tel succès et comment accueillir autant de monde dans un si petit village? Pour le comprendre, Samuel, vous êtes allé interroger le maire de la commune, Bruno Gillet, qui est aussi donc le chef d'orchestre de ce marché de Noël.
Oui Bastien, en effet, si vous allez dimanche à La Boissière, vous ne pourrez pas le manquer. Il est au cœur du village, chapeau de Père Noël sur la tête, micro à la main, et il communique sa joie de voir son village être aussi vivant pour l'occasion. Alors vous le disiez, pourquoi un tel succès pour le marché de Noël de La Boissière, alors que les villes d'à côté, Renazé ou Cran, rêveraient par exemple d'attirer autant de monde? Eh bien pour le maire, la réponse ne fait aucun doute, tout simplement parce que justement ce n'est pas qu'un marché de Noël, c'est un vrai marché de Noël qui n'a, contrairement à beaucoup d'autres, pas oublié pourquoi on l'on fête Noël.
La particularité de notre grand marché de Noël, et c'est ça qui fait certainement son grand succès et qui a une très bonne réputation, c'est de rester avec le mot-clé Noël, qui est donc la naissance de notre Dieu, l'esprit des fêtes de fin d'année, de Noël, surtout la naissance du Christ.
Et d'ailleurs, les festivités commencent dès samedi soir par une messe demandée par les bénévoles. Et on peut le dire, c'est un événement dans cette commune où il n'y a plus de messe le reste de l'année.
Exact. Pour la première fois, notre cher père Christian Van Dorp célébrera le samedi soir, la veille donc de notre grand marché de Noël, une messe en notre, non pas cathédrale, mais notre jolie église Saint-Serge à 18h30, donc le samedi 3 décembre à 18h30, au pied de la crèche, une crèche encore plus merveilleuse et plus belle et plus grandiose que les années passées. C'est impressionnant de voir ces milliers de personnes défiler dans notre église pour regarder, admirer la crèche.
Oui, parce que c'est l'autre particularité de ce marché de Noël qui se tient dans les trois rues du village, qui forme un carrefour au niveau de l'église. Et effectivement, les visiteurs attendent de longues minutes pour accéder à l'église et découvrir la crèche de Noël. C'est vraiment impressionnant. On dit d'ailleurs qu'au mois de décembre, des quarts de touristes viennent de la région visiter la crèche de La Boissière. Alors, ce qui est impressionnant aussi, c'est le feu d'artifice qui sera tiré dimanche soir à 18h30. Il est vraiment aussi beau que ceux tirés dans nos grandes villes, avec la proximité en plus. Là aussi, je crois que je peux le dire sans me tromper, c'est sans aucun doute le plus beau de la région tiré dans un si petit village. Et là encore, ce sont les cloches de l'église qui annoncent la fin du marché de Noël. Et tout le monde descend ensemble au son des cloches vers le feu d'artifice. Ça aussi, c'est typique.
Les cloches, toujours avec, en relation avec notre église, annoncent qu'il faut que les gens se réunissent auprès d'un petit plan d'eau où le feu d'artifice est tiré et qui est vraiment, on peut être très fier, notre village peut être très fier, bien qu'il soit charmant et petit, il peut y faire de très belles choses.
Donc si vous ne savez pas quoi faire dimanche, n'hésitez pas à aller au marché de Noël de La Boissière, à côté de Renazé dans le sud Mayenne, à la frontière avec le Maine-et-Loire. Bruno Gillet, le maire du village, vous attend.
Je vous dis à dimanche de 10h à 18h ou la veille à la cérémonie religieuse à 18h30 en l'église Saint-Serge.
Des propos du maire de La Boissière recueillis par Samuel Pécaud de Fidélité Mayenne. Et puis en sport, sans surprise, Manon Houet a été sélectionné en équipe de France pour les championnats d'Europe de handball. Il débute ce week-end en Suède. La Sartoise médaillée d'argent au JO de Rio devrait être sur le terrain dimanche pour affronter la Pologne. Coup d'envoi de la rencontre à 20h45. Voilà, c'est la fin de cette hebdo région. Votre magazine d'actualité vous était présenté par la rédaction de RCF Anjou en partenariat avec les autres radios chrétiennes des Pays de la Loire. Je vous souhaite un très bon week-end à tous. On vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Même jour, même heure. Merci encore de votre fidélité.